Vous êtes sur RTL.
Pascal, et vous deux.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Et dans la bonne humeur, espérons-le. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le calvaire de 10 enfants dans le Nord, victimes de graves négligences sur fond de misère sociale, et ce, malgré plusieurs signalements. 6 ans après, le procès des attentats de Nice s'ouvre cet après-midi. 86 morts, plus de 450 blessés et 8 accusés pour tenter de comprendre comment et pourquoi le terroriste tué ce soir-là par la police a pu passer à l'acte. Et puis la forme insolente de Caroline Garcia, c'est du tennis insatiable ces dernières semaines, la française, et en demi et en quart pour la première fois à l'US Open.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui, direction les Alpes, car le prix de l'électricité menace aussi les remontées mécaniques de vos stations de ski. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Bonjour, on s'embrasse ? Bah moins qu'avant, on en parlera avec Frédéric Lenoir. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée. Aujourd'hui, l'homme araignée star de l'année sur grand écran. Et bonne nouvelle pour les fans, Spider-Man revient mercredi dans les salles en version longue.
La question du jour.
Sur RTL.fr, faites-vous la bise à vos collègues ou à vos proches ? Vous ne me l'avez pas fait ce matin, Pascal.
Non, mais je pourrais faire celle à Louis Baudin.
Et pas
comme...
à moi, donc.
Comme Laurent Blanc la faisait à Fabien Barthez avant les grands matchs de l'équipe de France. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Il y a un sujet moi qui m'intéresse particulièrement également, accessoire, quoique. Les équipes de football devraient-elles utiliser en priorité le train pour leurs déplacements, bien sûr, quand c'est possible. Eh bien, vous pourrez nous donner votre avis sur ce sujet, sur les autres.
Avant d'embrasser Louis, si on lui demandait un petit mot de la météo pour cet après-midi. Bonjour Louis.
Bonjour Céline, bonjour Pascal. Eh bien, ça sera encore du soleil, de la chaleur et quelques orages quand même, hein, dans la plupart des régions.
Merci Louis, météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Des enfants ligotés à leur chaise haute, des problèmes d'hygiène. La découverte des policiers mardi dernier à Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, interroge sur le suivi des signalements faits aux services sociaux. Les forces de l'ordre sont intervenues après la plainte d'un des fils de la fratrie de 10 pour maltraitance. Franck Hanson, le procureur de Béthune, a pris la parole ce matin. Il décrit un contexte de misère sociale.
Oui, tout à fait. Des carences éducatives, des problèmes d'hygiène, de saleté et des violences, mais sans trace d'ITT. Cette famille défavorisée de Noyelles-sous-Lens n'était pourtant pas connue des services de police et de justice. Pour le procureur de Béthune, Thierry Dran, la brigade des mineurs est intervenue en urgence, même s'il tient à repréciser certains faits.
Maison de l'horreur, ça me paraît un qualificatif exagéré. On a affaire à des manquements certains. On a affaire à des manques d'hygiène, à des carences éducatives. On n'a pas de traces de coups sur les enfants. 12 seuls enfants mineurs étaient attachés sur les chaises lorsque les fonctionnaires de police sont arrivés. On intervient en urgence. Effectivement, l'urgence, là, c'est un placement. Il me semble qu'on ne peut pas tellement attacher des enfants sur des chaises.
Après cette affaire, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a donc réuni les acteurs concernés pour tirer les leçons. Ses parents avaient déjà été signalés, certains enfants étaient d'ailleurs scolarisés.
Tel ou tel enfant était signalé, mais on ne voyait pas nécessairement la logique entière de la famille. Une famille qui, bien évidemment, quand elle avait une visite des services sociaux, mettait peut-être en ordre sa maison. Donc une situation qui est à la fois évidemment inacceptable, mais qui n'est pas si exceptionnelle que ça, et qui interroge non pas l'implication des services, mais la coordination des services entre eux.
Alors les enfants mineurs ont tous été placés en famille d'accueil ou dans des structures spécialisées, ils vont bien. Les parents âgés d'une quarantaine d'années sont rentrés à leur domicile, ils seront jugés en janvier et ils encourent 5 ans de prison.
Franck Hanson dans le Nord pour RTL.
8 accusés et plus de 800 parties civiles. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre dans un peu plus d'une heure devant la cour d'assises spéciale de Paris.
6 ans donc après l'attaque au camion du terroriste Mohamed Laouesh Boulel sur la promenade des Anglais, c'était le 14 juillet 2016. 86 morts, plus de 450 blessés. L'attaque la plus meurtrière sur le sol français après les attentats du 13 novembre 2015. L'assaillant avait été tué par la police ce soir-là. Les accusés, soupçonnés d'avoir pu faciliter son passage à l'acte, ne sont pas poursuivis pour complicité d'assassinat. L'enquête n'ayant pas permis de déterminer s'ils étaient au courant ou non des projets du terroriste. La menace terroriste en tout cas reste élevée aujourd'hui encore, a insisté sur RTL ce matin le patron de la DGSI, Nicolas Lerner. Menace prise très au sérieux Tous les détenus radicalisés sont ainsi très étroitement surveillés à leur sortie de prison.
Vous le savez, le suivi de ces détenus est aujourd'hui l'une de nos principales priorités. Nous consacrons pour cela des moyens croissants. Vous savez que les services de renseignement se sont vus renforcer de 1900 personnes depuis 2017. Oui. Une partie importante de ces moyens est dédiée à la surveillance de ces détenus. Aujourd'hui, il n'y a pas un détenu djihadiste qui sort, qui n'est pas suivi par un service de renseignement.
Ça veut dire que vous craignez des récidives ?
Ça veut dire, en effet, et un certain nombre d'affaires récentes, y compris d'ailleurs un projet d'attentat déjoué fin 2021, nous montrent que des individus qui sont sortis de détention, ce ne sera pas le cas de tous, fort heureusement, mais qu'une partie significative d'entre eux reste ancrée dans l'idéologie et sont susceptibles, en effet, de récidiver.
Le patron de la DGSI avec Yves Calvi ce matin sur RTL.
RTL Midi.
Non, le gouvernement n'a pas demandé à la SNCF de réduire le nombre de trains cet hiver.
C'est pourtant ce que certains ont compris alors que l'exécutif appelle la compagnie ferroviaire à faire des économies d'énergie et notamment d'électricité. On rappelle quand même qu'à elle seule, la SNCF consomme plus d'1% de la production nationale. Mais les économies, Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Les économies, donc, on peut les faire en continuant à faire circuler tous les trains.
Oui, en commençant par l'éco-conduite, car oui, comme en voiture, les conducteurs peuvent consommer moins. Ce système a été mis en place à la fin de l'année dernière et la SNCF explique que la moitié des conducteurs pratiquent désormais l'éco-conduite. La consommation d'énergie des TGV pourrait être réduite de 5 à 7% grâce à ce dispositif. En réalité, les conducteurs lissent leur vitesse grâce à un algorithme qui leur conseille tel ou tel comportement de conduite sans retard à l'arrivée. Ils profitent en fait du dénivelé de certaines lignes. Mais en effet, la SNCF travaille aussi sur des scénarios d'urgence, en cas de grosses intempéries, par exemple, ou bien de coupure d'électricité. Par ailleurs, toutes les entreprises de transport seront reçues demain matin par le ministre des Transports, Clément Beaune. Il leur a demandé de présenter un plan de sobriété énergétique. Objectif, baisser leur consommation d'énergie de 10%. Des efforts demandés aux compagnies ferroviaires, bien sûr, mais aussi chez Air France, par exemple.
Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL.
Direction le Canada, à présent, où une chasse à l'homme est en cours dans une région aussi vaste que la moitié de l'Europe.
Deux suspects y sont activement recherchés après les attaques au couteau qui ont fait au moins 10 morts. Attaque dans des localités isolées de Saskatchewan au nord du pays, Julien Fautra.
Oui, l'horreur. En plus des 10 morts, une quinzaine de blessés pris en charge par les services d'urgence. Tous poignardés, certains tués au hasard. C'est une communauté précise qui a été visée, la James Smith Cree Nation, le nom d'une communauté autochtone, un peuple présent sur ce territoire depuis des milliers d'années. Deux hommes sont les principaux suspects, âgés de 30 et 31 ans. Les cheveux noirs, les yeux marrons. Sur les photos diffusés, ils ont un regard sévère. Il est 4h du matin à Saskatchewan. Les deux suspects courent toujours. Une odyssée macabre. Il y a de nombreuses scènes de crime, détaille la police. Et pour qu'il n'y en ait pas d'autres, la population doit rester chez elle. Question de sécurité, le temps que dans ce territoire immense, composé de forêts et de lacs, cette chasse à l'homme, cette chasse aux hommes s'achève enfin.
Julien Fautra du service étranger de RTL. Bye Bojo, les Britanniques s'apprêtent à tourner la page Boris Johnson. Le nom de son successeur sera connu dans un peu plus d'une heure à 13h30. Liz Truss fait figure de favorite.
Vous ne serez sans doute pas en forme si vous regardez régulièrement Flushing Meadow parce que c'est la nuit. Le tennis, donc, la forme éblouissante de Caroline Garcia.
Et pour la première fois de sa carrière, la Française est en quart de finale à l'US Open. Très en forme depuis quelques semaines, elle affrontera demain l'américaine Coco Gauff pour une place dans le dernier carré, Philippe Sanfour.
Oui, tous les rêves sont permis, hein, tant elle semble voler sur le court en ce moment. D'ailleurs, c'est un hashtag qui est né sur les réseaux sociaux, Fly with Caro, on vole avec Caro.
Elle est sympathique en plus.
Oui, elle est sympathique.
Elle a un jeu sympathique.
Ah bah, elle a un jeu tout en puissance et qui fonctionne parfaitement en ce moment. Les stats sont là pour le prouver. 30 victoires en 34 matchs depuis le début de l'été. Là, elle a tout simplement concassé Alison Risqueux, une fille qu'elle n'avait jamais battue en 3 confrontations. Mentalement, physiquement, Caroline Garcia est transfigurée et elle ne compte pas s'arrêter là.
Bah, je suis très excité, j'attends d'être en quart de finale, de jouer ce match. Je vais essayer, voilà, tout simplement de continuer à être agressif, me concentrer sur mon jeu, sur mes frappes. J'ai bien progressé ces deux derniers mois, j'en profite énormément et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir.
Voilà, Caroline Garcia chez nos confrères d'Eurosport. En quart de finale, elle affrontera, donc vous le disiez, Coco Gauff, encore une Américaine chez elle, devant son public. Mais en jeu, ce sera tout simplement une première demi-finale en grand chelem dans sa carrière, donc pour Caroline Garcia.
Merci beaucoup Philippe Sansfourche. La météo, on vous retrouve comme promis Louis Baudin. Toujours chaud cet après-midi mais orageux.
Oui c'est ça, avec beaucoup de soleil également. Hein, soleil, je le vois encore sur les images satellites qui domine quasiment partout. Mais on a quelques passages orageux, notamment sur l'ouest
à Paris,
de France, sur la Picardie. On est juste à la limite de ces orages. Alors on a les nuages mais on n'a pas la pluie à Paris. Donc on a l'inconvénient sans avoir l'avantage parce qu'on a besoin de pluie nous aussi. Il y en a un peu sur la Normandie, des pluies qui remontent sur la Picardie, des averses orageuses que l'on voit commencer également sur le sud du Massif central. Et bien ce risque, cette circulation, on va la retrouver cet après-midi dans toutes les régions ou presque, avec donc beaucoup de nuages, des passages nuageux, quelques averses orageuses à un moment. Alors sauf dans l'ouest, hein, du côté de la côte aquitaine, on devrait rester à l'écart de cette dégradation ou de ce risque orageux. Même chose du côté des Alpes. Et puis les températures, vous l'avez dit, toujours très élevées. Nous serons entre 21 et 26 degrés près de la Manche, mais 26 à 31 degrés encore dans toutes les autres régions, et parfois 35 même près de la vallée de la Garonne.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est donc l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous, un jour en France.
Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Aujourd'hui, on part en Isère retrouver Serge Peuillot. Bonjour Serge.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Grosse inquiétude sur la saison de ski dans les Alpes où l'on redoute de voir certaines remontées mécaniques rester immobiles cet hiver à cause du prix de l'électricité là encore.
Oui, les responsables des remontées mécaniques de Villard-de-Lans ont lancé un cri d'alarme ces derniers jours en expliquant qu'ils n'arriveraient pas à assumer l'explosion du prix du mégawattheure, évoquant même une possible fermeture du domaine skiable cet hiver. Jacques est restaurateur dans la station.
C'est une catastrophe, effectivement. On ne pourrait pas survivre. Hein. Toute la station vit principalement sur l'hiver. C'est sûr qu'on s'inquiète par rapport à la fréquentation de la station l'hiver qui va venir. Ça, c'est sûr. On se demande ce qu'ils vont faire. S'ils vont doubler les forfaits, s'ils doublent le prix des forfaits, ça va être une catastrophe. Oui. À Villard-de-Lans, surtout, qui est une station familiale, on n'est pas à Courchevel ni dans d'autres stations plus huppées.
C'est terrible, Serge, parce que déjà les stations de ski ont subi de plein fouet le Covid ces dernières années. Est-ce que d'autres grandes stations sont touchées ?
Oui, Fabrice Boutet est le patron du domaine skiable de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, deux stations internationales qui ont un gros parc de remontées mécaniques, ce qui fait que la facture d'électricité va exploser.
En fait, on va passer de 2 millions à peu près, qui est ce que l'on dépense aujourd'hui pour le groupe, à 20 millions. Donc on est entre 2 et 20 millions, donc le manque à gagner, ou tout au moins ce que l'on doit trouver, c'est 18 millions. Donc vous imaginez bien que ça devient extrêmement compliqué. Comment amortir ? Je pense que c'est véritablement d'avoir une sorte de bouclier tarifaire, nous maîtrisant le prix, et nous aider à amortir au travers d'un tarif le fonctionnement de nos remontées mécaniques.
Un espoir quand même, Serge, cette réunion qui doit avoir lieu demain ?
Oui. Une réunion à Paris avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions et faire des économies. Alexandre Molin est le président de Domaine Skiable de France qui regroupe l'ensemble des stations françaises.
Oui, nous sommes reçus demain à Bercy par le cabinet d'Olivia Grégoire pour voir les plans d'économie que nous pouvons faire pour contribuer entre guillemets à l'effort de réduction de la consommation globale. Toutes les entreprises du tourisme sont reçues, doivent présenter leur plan d'économie sur l'énergie et cela contribue aussi à nos besoins de chercher à réduire notre consommation encore plus que nous le faisions déjà car le prix de l'électricité a fortement augmenté et aujourd'hui une charge extrêmement importante pour nos adhérents.
Voilà donc effectivement après le Covid, c'est l'énergie qui va donner des sueurs froides aux responsables des stations.
Merci beaucoup Serge Peuillot dans les Alpes pour RTL.
Tout savoir sur le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, c'est notre premier focus du jour. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
C'est des gens qui crient, qui viennent vers moi. Et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies, où il a fallu placer des garrots, et il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver. Ça, c'était très dur. C'est un film que je n'aime pas revoir.
Le témoignage de Pierre Binot, sapeur-pompier, l'un des premiers arrivés sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016, après l'attaque au camion du terroriste Mohamed Laouesh Boulel. 86 morts, plus de 450 blessés. 6 ans plus tard, le procès de cet attentat va donc s'ouvrir dans un peu plus d'une heure maintenant à la cour d'assises spéciale de Paris. Cindy Hubert et Nicolas Burnand, vous êtes au palais de justice justement de Paris pour RTL. C'est vous qui allez couvrir ce procès. Bonjour.
Bonjour.
On commence avec vous, Nicolas. On est 2 mois à peine après la fin du procès des attentats du 13 novembre. À nouveau, c'est un procès exceptionnel qui s'ouvre avec plus de 800 parties civiles.
Oui, sur l'île de la Cité, les familles de victimes, le visage fermé, certaines accompagnées de leurs avocats, arrivent au compte-gouttes. Elles gravissent les marches avant de s'engouffrer dans le palais de justice. Elles portent des cordons verts autour du cou lorsqu'elles souhaitent répondre aux questions des journalistes, rouges lorsqu'elles ne veulent pas s'exprimer, le tout autour d'un imposant dispositif de sécurité. Comme pour le procès du 13 novembre, point de filtrage, fouille, le quartier est bouclé par des policiers lourdement armés. À 800 km de la salle de bois clair de cette cour d'assises spéciales. Une partie des victimes assisteront également aux audiences retransmises au Palais des Congrès de Nice. Elles pourront par ailleurs suivre ce procès à distance sur une web radio avec 20 minutes de décalage, y compris à l'étranger, puisque sur les 86 morts, 33 sont de nationalité étrangère.
Et la particularité peut-être par rapport aux attentats du 13 novembre, c'est aussi la présence de nombreux enfants parmi les victimes.
Oui, on se souvient des poussettes et des trottinettes abandonnées sur place. 15 enfants et adolescents sont morts ce soir-là. Le plus jeune n'avait que 2 ans. Le terroriste a zigzagué pour percuter le maximum de piétons possible. Il a foncé sur un groupe d'enfants devant un stand de bonbons. 42 enfants blessés sur toute la promenade des Anglais. Des centaines de petits traumatisés. Et certains feront le chemin jusqu'à la salle à Paris ou à Nice dans une pièce dédiée. Ils viendront témoigner de ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils endurent encore.
On l'a dit, hein, 8 accusés dans ce procès. Mais Cindy Hubert, ce qui est particulier, c'est qu'aucun n'est renvoyé pour complicité d'attentat. On rappelle que le terroriste a été abattu, lui, ce soir-là, par les forces de l'ordre.
Oui, absolument. Ce sera donc un procès sans auteur ni complice, puisque l'enquête n'a pas permis d'en identifier. Mohamed Laouesh Boulel a agi seul, mais le terroriste a semé des indices, des noms, de manière assez déconcertante d'ailleurs. Il a pris 2 de ses copains, par exemple, en photo dans le camion à leur insu. Sur les 8 accusés, 3 étaient des amis, des connaissances du tueur. Ils seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Tout l'enjeu de ce procès sera de savoir s'ils ont pu jouer un rôle dans son passage à l'acte ou bien s'ils ont pu se retrouver piégés dans son délire sadique. Les autres, 5 accusés, sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes. Vous le comprenez, on est donc sur des troisièmes, des quatrièmes couteaux, des accusés très périphériques. Et c'est peut-être pour ça que les victimes redoutent un procès très frustrant, quand il va y avoir un fossé entre le profil des accusés et l'horreur absolue des faits.
Et c'est aussi l'occasion de faire un point sur le profil psychologique, peut-être culturel, intellectuel de Mohamed Laouesh Boulel.
Oui, parce qu'on se souvient que Daesh avait bien revendiqué l'attentat 2 jours après, mais il s'agissait sans doute d'une revendication opportuniste. Le terroriste n'a pas eu de contact avec l'État islamique, aucune instruction, pas d'allégeance. Nous allons donc nous retrouver avec pas mal de questions sans réponse et c'est assez vertigineux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cet homme? Et pour le comprendre, il va falloir se plonger dans la personnalité de Mohamed Laouesh Boulel. Car c'est quelqu'un qui avait à bien des aspects des traits de psychopathe, quelqu'un d'instable, obsédé par le sexe, fasciné par l'ultra-violence. Laouesh Boulel frappait sa femme tous les jours, il poignardait la peluche de sa fille. Le terroriste n'était pas religieux du tout, puis il s'est radicalisé dans son coin de manière expresse. L'une des hypothèses des enquêteurs, c'est donc que le tueur n'a pas forcément été séduit par la propagande idéologique, mais bien par la violence de Daesh.
Merci beaucoup à tous les deux, Cindy Hubert et Nicolas Burnon pour RTL.
Dans un instant, parce que l'actualité est ainsi, nous allons avoir plus de légèreté à l'antenne. La bise, est-ce que c'est fini? Le Covid a-t-il eu raison de cette tradition? On en parle dans un instant avec le sociologue Frédéric Lenoir. Je vous embrasse.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi,
votre vie.
RTL Midi, oui, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
je compte sur vous pour respecter les consignes.
De ne pas serrer la main, de ne pas se faire la bise.
Saluer sans embrasser ou serrer la main.
Et sur ce sujet-là, les consignes semblent avoir été bien respectées.
C'est la sonnerie aux morts.
C'est la sonnerie aux morts, la mort de la bise, oui, Pascal. On se pose la question.
C'est un montage. À l'époque, lorsqu'Emmanuel Macron a dit ça, il ne l'avait pas dit avec la sonnerie aux morts derrière.
Non, mais on est un peu facétieux. Le Covid a-t-il tué la bise? Alors, le masque est tombé, mais ce geste barrière-là, lui, ne pas s'embrasser, semble résister. Pour en parler avec nous, Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à distance aujourd'hui, mais si vous étiez avec nous en studio, on se serait embrassé pour se saluer ?
Je suis pas sûr qu'on se sera embrassé. On se connaît peu, donc la question, c'est effectivement dans la distance sociale par rapport à, je dirais, des relations sociales, des relations professionnelles. Déjà, la bise n'était pas très présente. C'était plutôt de se serrer la main. Et aujourd'hui, la question qui se pose, quand on est dans cette relation sociale, c'est est-ce qu'on se serre la main ou est-ce qu'on se donne le poing. Moi, il m'arrive souvent de tendre la main et puis on me renvoie un poing. Donc,
c'est passé très vite. Le tchèque est arrivé en force quand même.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Donc il y a vraiment un recul de la bise, mais je dirais plutôt au niveau amical, au niveau des gens qui se connaissent un peu. Et là, on voit très bien qu'il y a eu tellement de peur d'être contaminé que beaucoup de gens, on est mal à l'aise. On ne sait pas très bien s'il faut le faire, pas le faire. On ne veut pas blesser l'autre, etc. Donc il y a un recul actuel de la bise. Après, il faut savoir que la bise, c'est européen. Vous avez aux États-Unis, on ne s'embrasse pas, on se serre la main ou on se fait des hugs, on se serre dans les bras lorsqu'on est dans des relations amicales. En Asie, on ne se touche pas. La tradition, c'est vraiment de se saluer de la tête ou de joindre les mains. Donc, je dirais que c'est vraiment les Européens qui ont principalement ce problème avec la bise, parce qu'effectivement, on sait que ça peut être contaminant dans le cas du Covid. Et tant qu'on a encore des vagues de Covid qui nous arrivent successivement, on peut comprendre qu'il y a une petite réticence et on n'ose pas trop. On ne sait pas comment la personne en face va réagir.
Vous dites tant qu'il y aura des vagues de Covid, mais est-ce qu'il y a un retour en arrière possible sur ce point-là, si un jour on est libéré définitivement du Covid, on va recommencer à s'embrasser ?
J'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'une habitude culturelle, c'est tellement ancré dans notre inconscient collectif, dans nos pratiques et tout, que c'est pas, je crois pas que ce soit quelques années de Covid qui puissent le faire reculer. Après, vous avez des personnes que ça arrange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au fond, n'avaient jamais envie de faire la bise, supportaient mal la bise des autres et qui vont prétexter que pour des raisons sanitaires, on sait jamais, il vaut mieux arrêter de faire la bise. Donc je pense qu'il y a des gens que ça arrange. Mais pour tous ceux qui aiment faire la bise, qui ont du plaisir à s'embrasser, je crois vraiment que ça va revenir dès qu'il n'y aura plus de menace. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus actuellement, c'est les enfants. Vous savez qu'il y a beaucoup de pédopsychiatres qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant avec toutes ces interdictions que les enfants embrassent leurs grands-parents, les proches et tout, beaucoup d'enfants sont très traumatisés par ça. Ils n'osent plus aller, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de ces gestes-là. Et donc là, je crois qu'il faut faire très attention à la santé, vraiment l'équilibre émotionnel et psychologique des enfants, et revenir le plus vite possible à la bise avec les enfants.
Bon, vous avez utilisé le mot traumatisé, peut-être est-il trop fort, mais là où je vous rejoins, c'est que j'entendais ce matin beaucoup de témoignages, d'ailleurs sur l'antenne d'RTL, et notamment des femmes qui devaient subir de temps en temps des bises qui ne les arrangeaient pas. Elles sont très contentes aujourd'hui de ne pas devoir embrasser ou un collègue ou une relation, oui. Que sais-je.
Tout à fait. Et ça, je pense que c'est la différence entre l'intimité, c'est-à-dire des relations familiales, amicales, proches. Eh bien, on a plaisir, la plupart du temps, à embrasser les gens qu'on aime. Par contre, évidemment, dans la vie sociale, la vie professionnelle notamment, il y a un certain nombre de gens, et sans doute de femmes, qui n'aimaient pas trop ce geste d'intimité qui est la bise. Et ça peut tout à fait les arranger. Et ça ne reviendra pas. C'est-à-dire, je pense que les personnes que ça arrange continueront de dire « moi, je préfère ne pas embrasser ». Et du coup, ça donne une bonne raison de pas le faire. Et ça reviendra par contre certainement, c'est déjà revenu en grande partie dans la sphère amicale et intime.
Merci Frédéric Lenoir. Je voulais juste terminer cette séquence par une note de musique, peut-être que nous proposait
Sous la main, style ancien.
Finalement, la bise sur la main, c'est un bon compromis.
Un baisement à l'ancienne, sans contact.
Bon, c'est un peu daté peut-être,
un peu désuet,
si on arrive à faire le baisement. Et paraît-il qu'on ne doit pas toucher avec la bouche le dos de la main.
Jamais.
C'est ça ? Bon, je fais attention. Merci en tout cas à Frédéric Lenoir. Dans une seconde, c'est RTL, votre vie qui vient donc de s'achever. Ce sera le retour de l'info avec le journal de 12h30. On en parle dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez et merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Nouvelle formule car désormais notre rendez-vous d'information de la mi-journée commence dès 12h, mais pour l'instant, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est notre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Lambrou.
Deux mois après la fin du procès du 13 novembre, c'est celui de l'autre attentat le plus meurtrier sur le sol français qui s'ouvre dans une heure à Paris. L'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. 86 morts, plus de 450 blessés et une plaie toujours très à vif sur la promenade des Anglais. On la présente déjà comme la nouvelle Margaret Thatcher. Mais qui est Liz Truss, la femme qui pourrait bien être nommée première ministre du Royaume-Uni dans une heure? Le PSG boude le TGV pour aller affronter le FC Nantes, un aller-retour en avion décrié par un cadre de la SNCF. On en parle juste après le journal. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi à 12h50, c'est le film le plus vu de l'année en France et dans le monde. Spider-Man No Way Home revient mercredi en version longue. La question du jour sur RTL.fr, faites-vous la bise à vos collègues ou à vos proches?
Et la réponse pour le moment? On a quelque chose? Non, pas encore.
Moi, j'ai pas encore de tendance, mais
non, on n'a pas de tendance.
On vous répondra à l'antenne tout à l'heure, Pascal.
On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs, bien sûr. Au 3210, vous pourrez dialoguer avec nous. On pourra évoquer également le procès de l'attentat, bien sûr. Les équipes de foot qui devraient peut-être utiliser le TGV, les propriétaires immobiliers qui reçoivent leur avis de taxe foncière. Et puis, vous l'avez dit, c'est ce sujet de la bise.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Louis Bonin?
La chaleur, des températures qui vont encore souvent atteindre ou dépasser les 30 degrés, mais avec un petit risque d'orage.
Merci Louis.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
6 ans après, sur la promenade des Anglais, personne n'a oublié la nuit du 14 juillet 2016, l'attaque terroriste de Mohamed Lawesh Boulel, ce camion projeté sur la foule qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés. Le procès de l'attentat s'ouvre aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris, procès qui sera retransmis au Palais des Congrès de Nice, dans une ville toujours meurtrie, Étienne Baudu.
Oui, pour les Niçoises et les Niçois croisés ce matin sur la prom, comme ils appellent le front de mer, le souvenir est intact et ancré profondément. Nicole, ce soir-là du 14 juillet, assiste au feu d'artifice et rentre chez elle à quelques rues de là.
À 5 minutes près, le camion venait sur moi. Déjà une chance terrible, mais c'était plein de sang, c'était atroce. On ne peut pas oublier des choses comme ça. Oui, moi j'y pense, parce que je me dis, pauvres gens qui... Il y a des gens qui sont handicapés maintenant à vie, les jambes coupées, des choses atroces. Et puis d'autres qui pleurent leur mort, et ces petits-enfants qui sont morts, c'est tragique.
Michel, lui, habite une rue perpendiculaire à la promenade. Tous les jours, il passe devant le palais Masséna, devant lequel un mémorial a été édifié.
Du paradis, vous êtes passé à l'enfer, voilà, c'est ça. Moi, ça reste marqué, pas dans ma chair, parce que j'ai pas eu... Mais ça reste marqué, tous les jours, je le vois, et tous les jours, je vis avec. Le lendemain, je vois un type qui était sobre, et qui allume des bougies, je dis, mais il était en train de pleurer, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je dis, écoutez, j'avais 4 enfants, voilà, j'ai une bougie pour chacun des enfants. Bon, c'est... Ça dépasse l'entendement, ça dépasse même la possibilité de souffrance, je sais pas comment dire.
Alors, Michel et Nicole vont suivre ce procès, évidemment.
Bien sûr, obligé, parce que on l'a vécu, quoi. Plus ou moins loin, on l'a vécu.
Même s'ils estiment qu'il n'apportera pas vraiment de réponse, un moment nécessaire tout de même, disent-ils, pour les familles des victimes.
Étienne Baudu à Nice pour RTL.
C'est une information qui surprend parce qu'elle échappe au simple bon sens. Une permission de sortie pour un détenu qui a failli coûter la vie à un chauffeur de taxi. Le détenu a profité de son autorisation de sortie pour agresser très grièvement un homme la semaine dernière à Paris.
L'agresseur avait été condamné pour le meurtre d'un adolescent de 14 ans en janvier 2012. Il n'avait pas fini de purger sa peine, Alice Moreno, mais bénéficiait donc d'une autorisation de sortie qui lui a permis de quitter quelque temps sa cellule.
Oui, il profite d'une journée de permission fin août pour fuir. Il est alors considéré comme évadé, nous précise le parquet de Versailles. Dans la nuit de mardi à mercredi, la semaine dernière, il agresse un chauffeur de taxi dans les Yvelines, le blesse avec un cutter au niveau du cou avant de voler sa voiture. La victime s'en sort avec 10 jours d'incapacité totale de travail. L'auteur de l'agression, lui, est finalement arrêté en Normandie vendredi et placé en détention provisoire pour cette agression.
Le profil de cet individu était quand même extrêmement inquiétant. Alors, pourquoi est-ce qu'il est autorisé à sortir?
Alors, il a été condamné il y a 8 ans pour le meurtre d'un mineur. Il est à la moitié de sa peine, à peu près.
Il a été condamné à 22 ans?
Il a été condamné à 22 ans de réclusion, absolument.
Donc, au bout de 8 ans, il a le droit à une permission de sortie?
Alors, justement, j'y venais. S'il s'est bien comporté en prison et qu'on juge qu'il n'est pas dangereux de manière imminente, il a droit à cette permission. Mais pour l'avocat de la famille de l'adolescent qu'il a tué en 2012, maître Philippe Simoneau, c'est une aberration.
D'un point de vue humain, comment expliquer à des parents dont la vie s'est arrêtée le jour où on leur a pris leur gamin, le jour où on a assassiné Maxime, qu'ils peuvent, du jour au lendemain et sans qu'ils soient prévenus, croiser le meurtrier et l'assassin de leur fils dans les rues. Là, on parle de dignité, quoi.
L'avocat qui précise que dans ce cas de figure, le juge d'application des peines peut décider de prévenir les parties civiles, mais qu'il n'en a pas l'obligation.
Et qui décide, c'est le juge d'application des peines.
C'est le juge d'application des peines, et pour certains crimes, notamment des crimes sexuels, des viols, le juge peut décider de faire appel à des experts psy qui vont décider si oui ou non, trancher, dire si oui ou non il y a un danger à laisser sortir cette personne.
Donc vous mettez quelqu'un dehors, il lui reste 14 ans de prison et vous vous étonnez qu'il soit évadé. Quand je dis, pas vous, hein, bien sûr, mais la justice s'étonne qu'il s'évade. Et quand je dis que ça échappe au simple bon sens, c'est étrange, on peut le dire quand même comme cela.
Merci beaucoup, Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Bye bye Boris Johnson. Le Royaume-Uni connaîtra dans un peu moins d'une heure son nouveau ou sa nouvelle première ministre.
Deux mois après l'annonce de la démission du fantasque chef du gouvernement Boris Johnson, c'est une femme qui tient la corde pour lui succéder, Marie Billon, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, avec elle, a priori, ce sera plus policé, hein.
Oui, Liz Truss est une femme politique beaucoup plus classique que Boris Johnson. Elle reste très lisse dans sa manière de parler, même si les critiques ne la trouvent pas très fluide. Si elle n'est pas adepte des pitreries à la Bojo, elle n'est pas étrangère aux gaffes non plus. Quand par exemple, alors déjà ministre des Affaires étrangères, elle avait encouragé les Britanniques à aller combattre en Ukraine au début de l'invasion russe, ou bien plus récemment, quand elle a dit ne pas savoir si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Elle s'est aussi attirée beaucoup de moqueries quand, lors d'un discours en 2014, elle avait dit de manière très larmoyante que c'était une honte que le Royaume-Uni importe 2/3 de ses fromages. Elle reste malgré tout très populaire auprès de la base du Parti conservateur et rappelons que ce ne sont que les membres du parti qui votent, soit 0,2% de la population britannique pour choisir ce nouveau ou cette nouvelle première ministre. Et Liz Truss est populaire parce qu'elle est devenue plus pro-Brexit que les Brexiteurs pour compenser le fait qu'elle ait été anti-Brexit lors du référendum il y a 6 ans. Les membres sont très séduits par sa promesse de baisse d'impôts immédiate, mais les députés de son propre parti et les économistes sont moins convaincus. Ils ont peur que cette mesure jugée populiste n'augmente l'inflation et ne fragilise l'économie.
Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Au Canada, les forces de l'ordre sont toujours à la recherche des deux suspects coupables d'une série d'attaques au couteau qui ont fait au moins 10 morts dans le Saskatchewan au nord du pays.
C'est un anniversaire encombrant qui se profile pour le Rassemblement national.
Dans un mois, exactement, le parti de Marine Le Pen fêtera les 50 ans du Front National. Mais quelle place donner à un tel événement? Le sujet sera débattu cet après-midi lors du bureau exécutif du parti. Chez les pontes du RN, Marie Mollet, tout le monde n'est pas prêt à sortir les cotillons.
Et oui, comment célébrer un passé que Marine Le Pen a mis tant d'énergie à faire oublier? Dilemme qui fait bondir d'avance les élus RN nouvelle génération. On n'a que des coups à prendre, s'agace l'un d'entre eux. Vous les voyez venir, les attaques sur les Waffen-SS et les nazis du front époque Jean-Marie? Sauf qu'au départ, c'est Marine Le Pen elle-même qui a sorti l'idée du chapeau. Fêter le jubilé du mouvement. En mai, elle n'excluait pas d'emblée que son père fasse partie des invités. On verra, disait-elle. Mais entre-temps, certains de ses proches ont pris leur courage à deux mains pour lui dire qu'un banquet à la gloire du front n'était peut-être pas indispensable. Le sujet sera abordé cet après-midi en bureau exécutif. Mais on s'achemine vers une cérémonie à minima. Pas de célébration particulière, assurait Jordan Bardella hier. On verra si on fait un petit quelque chose en comité restreint. Jean-Marie Le Pen, lui, a déjà annoncé qu'il tiendrait sa propre surprise partie pour les 50 ans du front. 500 invités sur les hauteurs de Montretout.
Marie Mollet du service politique de RTL. Éric Zemmour lui faisait sa rentrée médiatique aujourd'hui avant de réunir son parti Reconquête à la fin de la semaine. L'ex-candidat à la présidentielle qui en a profité pour soutenir Ségolène Royal qu'il a jugée courageuse pour ses prises de position. Ségolène Royal qui la semaine dernière a mis en doute les crimes de guerre en Ukraine avant de tempérer ses propos.
On en vient à cette histoire incroyable qui a mis en alerte les armées de l'air européenne.
Oui, celle d'un jet fantôme. C'était hier, un avion privé a décollé de Jerez dans le sud de l'Espagne, direction l'Allemagne. Sauf que personne ne répondait au tour de contrôle et quand les rafales de l'armée de l'air envoyées en urgence se sont approchées de l'appareil, Nerissa Imani, les pilotes n'en ont pas cru leurs yeux.
Oui, personne dans le cockpit, en tout cas aucun pilote aperçu à la vitre, aucun mouvement à l'intérieur. Alors la police du ciel décide d'escorter cet avion qui poursuit son plan de vol, visiblement en pilote automatique. Il passe au-dessus de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, puis il finit par s'écraser dans la mer Baltique à cause d'une panne de carburant. Des équipes de secours sont envoyées sur place, aucun reste humain n'a été retrouvé, mais selon le plan de vol établi avant le décollage, 4 personnes étaient à bord. bord de ce petit avion privé. Alors, les raisons de ce drame sont encore inconnues, mais il est probable que les occupants aient perdu connaissance, car d'après les autorités espagnoles, le pilote de l'avion a alerté sur un problème de pression dans la cabine peu après le décollage. L'analyse des boîtes noires de l'appareil permettra de faire toute la lumière sur ce crash.
Merci Nerissa. TF1 va porter plainte contre Canal+, réponse à la décision du groupe Canal qui a cessé de distribuer les chaînes du groupe TF1 la semaine dernière après un différend commercial. Et puis du volley ce soir, l'équipe de France, championne olympique en titre, affronte le Japon en 8e de finale du mondial. Ce sera à 21h. La météo, on vous retrouve Louis Baudin.
Oui, avec du soleil, de la chaleur aujourd'hui et quelques orages, alors très localisés, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais le risque existera quasiment partout, sauf peut-être sur la côte aquitaine ou encore du côté des Alpes où là ça restera plus calme et ensoleillé. Avec ces orages, on aura malgré tout de la chaleur, les températures encore 21 à 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 31 degrés dans toutes les autres régions et on frôlera encore les 35 degrés près de la vallée de la Garonne.
Merci Louis.
Il est malin le directeur de TGV Intercité Alain Krakowicz. Il a interpellé l'équipe du Paris Saint-Germain dimanche pour avoir utilisé l'avion pour son déplacement à Nantes alors qu'il y a un Nantes Paris en SNCF. Donc il fourgue la publicité pour la SNCF et puis en plus il parle d'écologie. Mais c'est une vraie question. Est-ce que les joueurs de football doivent prendre le train? Ceux qui même prendront le train. On en parle dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Quand on voit l'impact carbone de billet d'avion, enfin, c'est ça dont il faut parler, quoi. Je le redis, un TGV, ça pollue 80 fois moins que le même voyage en avion. 80 fois moins.
Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF en décembre dernier, qui défend le train. Et hier soir, c'est l'un de ses lieutenants, Alain Krakowicz, qui s'en est pris au PSG. Réponse à une vidéo postée par les joueurs de la capitale, vidéo dans l'avion. Ce qui a valu cette réponse d'Alain Krakowicz, Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV. Renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques. Alors, pour en parler avec nous, Arnaud Touche, journaliste au service Éco de RTL, spécialisé transport.
Bonjour.
Et Nicolas Georgerot, journaliste au service des sports d'RTL.
Bonjour.
On revient sur ce vol du PSG. Est-ce qu'il y avait une autre solution pour rentrer à Paris ?
Une autre solution, dans l'absolu, oui, il peut y avoir d'autres solutions, mais à partir du moment où le match était à 21h et que le club voulait rentrer rapidement après la rencontre, ils avaient fait le déplacement à l'aller en avion, ils sont rentrés en avion.
Mais on peut dormir sur place quand même, ou on peut rentrer en car couchette, ce qui évitera peut-être aux joueurs pendant ce temps-là d'aller en boîte de nuit, ils seront dans le car.
Alors, en l'occurrence, là, cet argument, c'est assez caricatural, mais ça, je ne suis pas trop pétonné. Mais en fait, même s'ils étaient à Nantes, on n'aurait pas eu les joueurs du Paris Saint-Germain en goguette dans les différentes discothèques de la ville. Non, c'est une question, sur la question de la récupération que vous posez, c'est une question qui a beaucoup agité les préparateurs physiques. Je raccroche il y a une demi-heure avec un préparateur physique qui fait autorité dans le milieu. J'ai eu deux membres de staff au téléphone également. Aujourd'hui, ça a été établi scientifique que ce sujet du déplacement, il faut l'évacuer le plus vite possible. C'est-à-dire rentrer le plus vite possible après le match. Parce que de toute façon, les joueurs ne dorment pas. Ils ne dorment pas avant 3-4 heures du matin. Et donc, si vous les levez à 7h ou 8h pour prendre un train, par exemple à 9h pour arriver à 11h à Paris, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le modèle, c'est de rentrer jusqu'à 3h du matin et les laisser chez eux. Qu'ils soient faire un entraînement et un décrassage dans la matinée et qu'ils fassent une sieste en début d'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui a été mesuré scientifiquement.
Et rentrer le soir même en train, c'est pas possible, Arnaud ? Je me tourne vers vous.
Si, évidemment que c'est possible. Parce qu'en fait, la SNCF, on le sait peu, peut privatiser des trains. Il y a même une équipe de 13 personnes qui est dédiée exactement pour ça. Si aujourd'hui, vous voulez privatiser un train, c'est-à-dire une rame, voire deux, c'est tout à fait possible et vous pouvez la faire partir à 1h du matin à Nantes si vous le souhaitez pour rentrer à Paris. Je rappelle que Nantes-Paris, c'est à peu près 2 heures de trajet. Au niveau des coûts, c'est pas si exorbitant que ça. On est à partir de 30 000 euros pour une privatisation, par exemple. Pour un aller-retour, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros sur les périodes de pointe. Mais là, on parle de services exclusifs. Au fond, quand le PSG réserve un avion...
Arnaud, il pourrait avoir un TGV qui partirait de Nantes
tout à, fait.
À minuit, parce même que c'est après. À peu près ça.
Alors ils ont décollé à, j'ai l'heure si vous voulez, ils ont décollé depuis Saint-Nazaire, parce que ça on en parlera tout à l'heure, ils ont décollé à 1h du matin.
Ils ont décollé à Saint-Nazaire.
Mais oui, mais figurez-vous.
Et pourquoi ils sont allés à Saint-Nazaire?
Et ben justement, parce qu'ils sont partis samedi en fin de matinée, ils ont atterri à Nantes à 12h06, 42 minutes de vol. Qu'a fait ce Boeing 737-500? Il a fait un vol de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire, pour la simple et unique raison qu'on ne peut pas décoller depuis Nantes après minuit, parce qu'il y a un couvre-feu. Or, on peut décoller de Saint-Nazaire. Donc, les joueurs, à la fin du match, sont allés à
l'aéroport de Saint-Nazaire et non pas Nantes, mais l'avion, lui, avait
donc
déjà fait le déplacement.
Ils ont fait une heure de quart pour aller à Saint-Nazaire.
Absolument.
En gros, Nantes-Saint-Nazaire, il y a une...
Tout à fait.
Ah oui, 45 minutes, une heure.
Donc on ne peut pas avancer la question du gain de temps pour ce choix de l'avion plutôt que du TGV pour rentrer à Paris.
Non. Et il faut aussi comparer d'autres sports. Effectivement, j'entends les arguments de Nicolas sur les préparateurs sportifs, etc.
Mais le train peut partir à n'importe quelle heure. Hein.
Oui, il peut partir à n'importe quelle heure. À partir du moment où vous sortez 40, le chéquier, on vous fait un trajet sur mesure.
Il y a un problème de sécurité quand même. Parce que si vous mettez dans la gare de Nantes à minuit 45, Messi, Neymar et compagnie, c'est toute la police nantaise qui doit être sur place pour les accompagner.
Oui, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, alors certes, vous allez me dire c'est des ministres, il y a pas un fan club de Bruno Le Maire qui va être comme
ils
ça à côté.
Ah non, c'est pas la,
ils
non, attends, c'est pas la même chose.
C'est, vrai, mais c'est pas la même
parce que partout c'est le PSG dont on parle.
Je comprends.
Quand le PSG va se déplacer, ça va être chaud.
Et
le
comment on fait pour les
équipes
de rugby en 2023 qui vont être entièrement justement prises en charge par la SNCF?
J'ai envie de dire que personne ne connaît les rugbyman qui viendront par rapport à Messi, Neymar, etc. Mais je suis un peu caricatural là aussi.
Juste une chose sur vraiment, puisque là on parle du Paris Saint-Germain, le PSG aujourd'hui dit notamment ce matin qu'ils n'opposent pas une fin de non-recevoir. Et ils sont toujours en contact avec la SNCF. Là, on vient de soulever le problème de la sécurité. C'est un des points sur lesquels ils demandent des ajustements, parce qu'effectivement, d'aller Gare de Lyon ou Gare du Nord, etc., et ça pose et ça demandera beaucoup de personnel. Ça, c'est le premier point. Et puis, sur l'aspect logistique, effectivement, de bout en bout, en fait, sur le voyage.
C'est voilà. 50 personnes, à peu près 60 personnes qui se déplacent avec le PSG.
Oui, à minima.
Vous avez au moins 30.
À minima, oui. Ouais. Ça va même jusqu'à 80.
Mais 80 personnes
au total.
En Italie, je précise quand même que les joueurs de la Serie A sont en TGV. Hein.
Vous êtes sûr de ça?
Ah oui, la AS Roma, la Juventus, ils
quelques-uns,
voyagent en TGV.
Il y a une équipe aussi en Espagne, oui. Le Betis Séville, qui a passé un accord avec Renfe pour faire des déplacements.
Merci beaucoup.
Mais juste une dernière précision.
C'est sur 500
km. Juste une dernière précision. De toute façon, la Ligue, la Fédération et les organismes qui ont travaillé là-dessus, on pense que de toute façon, un quart des trajets sont faisables en train sur toute la saison. C'est une solution qui ne peut pas être pérenne et faire sur
toutes
les déplacements.
À toutes les rencontres, évidemment.
Voilà. Un quart seulement.
Quand vous êtes Paris, c'est Rennes, c'est Nantes,
c'est Lille,
c'est Auxerre,
mais
c'est Lens,
à Reims, ils vont déjà
Lille,
en quart, par exemple.
C'est Reims. Voilà, c'est quand même...
65% des trajets effectués en avion lors de la saison Ligue 1 2019-2020, 31% en bus, 4% en train.
Source LFP. Je suis même étonné que ce soit 65%, je pensais que c'était 90%. Donc
oui.
12h51, on est un poil en retard. Stéphane Boutsock entre dans le studio à l'instant, donc nous allons parler, je pense, cinéma. À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture, c'est tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, l'homme araignée. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Pascal, bonjour Céline.
On parlera de Spider-Man avec vous, mais je salue aussi Monique Younes.
Bonjour. Et Monique, vous nous parlerez, vous, de Thaïs, l'humoriste qui monte. On commence avant ça avec celui qui n'en finit plus de monter, Spider-Man, avec la ressortie mercredi.
Même.
De grimper aussi, comme vous voulez. Ressorti mercredi au ciné du dernier Spider-Man. Mais pourquoi? Pourquoi Stéphane Boutsock?
J'aimerais vous dire que c'est pour l'amour du cinéma et la beauté de l'art.
Mais vous en doutez.
Fortement. C'est pour une grosse question d'argent. Je vais quand même vous donner quelques chiffres. Spider-Man No Way Home, donc, est sorti à la fin de l'année dernière. C'est le 6e film le plus vu au monde. Donc dans l'histoire du cinéma, on est autour des 2 milliards de dollars de recettes. Et en France, c'est carrément le film le plus vu depuis un an, avec 7,5 millions spectateurs. C'est amusant parce que le film est sorti hier, enfin ce week-end aux États-Unis, et c'est le numéro 1 au box-office. Donc ça prouve qu'il y a encore un gros intérêt, une jolie manne à se faire.
Je ne vais jamais voir ces films-là.
C'est pas vrai, vous n'avez jamais vu un seul.
Jamais. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort?
Vous avez tort.
Oui.
Parce qu'il y en a des pas bons. Oui. D'abord, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'il y en a trop, même maintenant, parce qu'il y a Marvel, il y a DC Comics, donc c'est les Superman, les Batman. Il y en a beaucoup. On en a à peu près une dizaine par an sur les écrans. Mais il y en a des excellents. Et en l'occurrence, Spider-Man, c'est-à-dire depuis 2002, cette affaire au cinéma, c'est un des plus réussis avec un héros extrêmement attachant.
Alors, contrairement à Pascal, ceux qui ont déjà vu Spider-Man, non.
Ah bah, vous l'avez jamais vu non plus?
Non, mais non, pas celui-ci. Mais
vous en avez vu?
Ouais, j'ai un compagnon.
J'ai toujours l'impression que c'est pour un public jeune.
Ah, pas que, parce qu'il y a quand même des thèmes, on va en parler, il y a des thèmes sur la société. C'est pas un hasard si les films de super-héros marchent encore plus à certaines périodes, notamment en ce moment.
Et cette version longue, alors, le petit quart d'heure en plus?
Alors, on nous promet du fun, c'est-à-dire qu'il y a eu au montage des scènes coupées qui étaient très amusantes, donc Il y a 11 minutes de film à peu près en plus. On nous rajoute ça, et la bonne idée de ce dernier film, c'était de réunir à l'écran les trois acteurs qui ont incarné les trois Spider-Man depuis 2002, donc Tobey Maguire, Tom Holland, qui est le dernier en date, et Andrew Garfield. Et il y a, paraît-il, beaucoup plus de blagues. C'est vrai que le film était un petit peu grave, en tout cas.
Merci Stéphane. Les blagues, c'est pas le point fort de L'Homme araignée. Sans transition, donc, on en vient à votre coup de cœur, Monique Younes, oui. Pour Thaïs Vauquier, qui est une star du stand-up.
Les auditeurs d'RTL la connaissent d'ailleurs un petit peu. Hein.
Bien sûr, parce qu'elle est chez... Où ?
Chez Bruno Guillon.
Le dimanche.
Le dimanche.
Voilà, ils peuvent l'écouter. Elle fait le portrait de l'invité tous les dimanches. Elle a 30 ans, Thaïs, elle est rousse, elle en profite parce que sa chevelure est son unique accessoire. Et elle n'a peur de rien, même pas des comparaisons avec Florence Foresti ou Blanche Gardin. Et son spectacle consiste en un défilé de personnages qui ne sont chaque fois ni tout à fait elle, ni tout à fait une autre. D'abord... Il y a la vampe célibataire que tout le monde drague, qui fraude dans le métro et qui se fait choper par le contrôleur de la RATP.
Du coup, il m'a sorti un truc pervers, j'ai pas aimé du tout. Il me regarde, il me dit, écoutez mademoiselle, alors là, ça suffit, sinon je vais devoir vous mettre une amende. Non mais tu te calmes. Ah non, je veux des trucs dégueux avec des fruits secs, ça c'est dégueulasse.
Elle n'aime pas faire des choses avec les fruits secs. Alors quand elle va chez le dentiste, elle s'étonne, Thaïs, qui lui demande de s'allonger.
C'est genre, ouvrez la bouche, fermez la bouche, ouvrez la bouche, fermez la bouche, sortez la langue, rentrez la langue. Et Gilbert, je sais faire.
Bien, et elle aime jouer les mythos, Thaïs, Monique.
Elle joue tout aussi bien des personnages loufoques comme Gigi, une mère célibataire avec 7 enfants auxquels elle a donné comme prénom des produits stars de McDonald's. Donc il y a nuggets, muffins, grandes frites, petites frites. Et Gigi est offusquée que son aîné Big Mac veuille apprendre à lire et à écrire. Non mais la télé, c'est pour les chiens ou quoi ? Il y a aussi la lycéenne Kyra qui vient passer l'oral du bac. Elle a choisi d'analyser le texte de Blanche-Neige dont elle n'aime vraiment pas du tout la belle-mère.
Elle est chelou, hein. Ah, elle croit son miroir, il lui répond. Elle arrive vers son miroir, elle fait... Alors, c'est qui maintenant la bombasse ? Ah, le miroir, il fait ma chérie ! Sois sublime ! Mais c'est pas toi. La reine du shopping et Blanche et Neige.
Et il y a comme ça pendant 1h30. C'est vraiment hilarant. Il faut la voir sur scène. Le spectacle de Thaïs s'intitule Hymne à la joie. C'est au théâtre du Gymnase à Paris tous les vendredis et samedis soirs. Et les places sont de 14 à 27 euros.
Merci Monique et merci Stéphane. On vous retrouve très bientôt.
Les auditeurs dans un instant. Peut-être vous pourrez nous parler des films Marvel. Est-ce que vous êtes.
Essayez de convaincre Pascal, par
intéressé
exemple.
Intéressé à ça. Mais je serais convaincu déjà par ce que disait.
Je vais vous amener des DVD, Pascal. On va commencer par là.
Des DVD.
Oui. Vous avez encore un lecteur chez vous, je pense.
Je pense.
Magnétoscope même, je pense.
J'ai regardé Columbo ce week-end. Il est 12h59. À tout de suite.
RTL Midi.